Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Huitième émission qui cette saison, je vous le rappelle, en comptera 10. Alors des familles, tout au long de ces épisodes, on en a rencontré. On a récolté les mots et des mots. On a échangé, on a co-construit. Eh bien, prochainement, on parlera tous ensemble d'avenir. Car sans trop vous en dire, mais au vu de récentes bonnes nouvelles, l'Imaginoire reviendra sur les ondes pour une quatrième saison. Alors de jeunes enfants et leurs familles, on en a rencontré, mais de jeunes adultes déficients visuels, on n'en avait pas encore rencontré. Et pourtant, il nous tardait, au sein de l'équipe, qu'on nous explique ce que c'est que d'avoir 20 ans, aujourd'hui en France, et d'être déficient visuel. Eh bien, c'est exactement ce que nous vous proposons dans cet épisode, en compagnie d'Enzo et de son amie Maïline. Un épisode qui vous donnera certainement la banane, et qui, après écoute, on l'espère, vous donnera envie de le partager en masse. Bonne rencontre, bonne écoute.
Du coup, moi je m'appelle Enzo, j'ai 21 ans, je suis originaire d'un petit village dans la périphérie de Valence, dans la Drôme du coup, et ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je suis parti du coup à Toulouse pour me rapprocher de ma copine.
Tu es aveugle ?
Ouais, je suis complètement aveugle depuis 2017 maintenant, suite à pas mal de soucis de santé, très compliqués, des effets secondaires, de traitements que j'ai eu à l'hôpital toute ma vie. Tout allait bien jusqu'à mes 9 mois, et en fait, quand j'ai eu 9 mois, mes parents ont repéré des trucs dans mes yeux, un peu bizarre, des reflets, des sortes de reflets dans mes yeux. Ce qui a amené ma mère à m'emmener faire des examens, et on s'est rendu compte que j'avais un rétinoblastome bilatéral, donc c'est un cancer des rétines, avec une tumeur du coup sur chaque rétine. Dieu merci, je suis né en 2000, du coup le traitement pour cette maladie, on sait en fait à peu près traiter cette maladie depuis 98, et donc du coup j'ai été un peu dans les premiers à bénéficier du traitement, ce qui fait que du coup j'ai eu deux chimiothérapies, des rayons pour essayer de me sortir un peu de ça. Et ça m'a permis de garder la vue, enfin un petit peu de vue en tout cas, pas beaucoup, mais un petit peu de vue jusqu'à mes 15-16 ans. Quoi.
Donc tu as pu suivre une scolarité entre guillemets normale, en milieu ordinaire
ou tu... Ouais. Mes parents ils se sont battus toute leur vie pour que je reste dans un milieu ordinaire. Maternelle, primaire, collège, lycée, en fait j'ai toujours été dans des milieux, dans des collèges, lycées... comme tout le monde, quoi. Et on s'est juste débrouillé pour que ce soit les profs et même l'administration des établissements dans lesquels j'étais qui s'adaptent, quoi. J'ai été malvoyant jusqu'à mes 13 ans, quand j'étais en quatrième, en fait. En fait, un soir, je me suis mis à voir flou d'un coup, d'un œil. Ça, en fait, c'était une hémorragie interne de l'œil. Et ça s'est répété, ça, pendant plein de fois, pendant 3-4 ans. C'était de manière très aléatoire, mais voilà, tous les 2-3 mois... Des fois, j'allais pas en cours pendant une ou deux semaines parce que je faisais des hémorragies internes, quoi. Et je perdais la vue peu à peu. En fait, j'ai fait un décollement de rétine d'un des deux yeux. Du coup, j'ai perdu mon premier œil, celui qui voyait le mieux, le droit. Ce qui m'a laissé du coup avec un seul œil en troisième et en seconde. Et au fur et à mesure, le deuxième aussi est parti en live et je l'ai perdu quand j'étais en première, définitivement, je crois. Quand j'étais en première au lycée.
Donc, tout au long de ta scolarité, tu as dû t'adapter en fait.
Mais c'est ça,
par rapport jusqu'à... à la baisse de ta vision progressive. Tu l'utilisais en mode visuel ou...
Au tout début, donc quand j'étais gamin, je lisais juste un peu plus en plus gros, quoi. Agrandi, et puis au fur et à mesure, c'était plus possible, quoi. Donc après, c'est les gens qui m'ont lu des trucs, et puis après, je suis passé aux synthèses vocales, quoi. J'ai fait 6 mois de Sciences Po à Toulouse, en fait. Je suis rentré à Sciences Po en 2019 et puis j'ai arrêté, quoi.
C'est toi qui as décidé d'arrêter parce que tu sentais que c'était pas ta voie ou
C'est mon parcours de vie qui m'a amené à arrêter de faire des études. C'est tout un processus, ça a été très très long et très très difficile, une période de ma vie qui est très compliquée. Mais en gros, c'est moi qui ai décidé d'arrêter les études parce que je me rendais compte que les études c'était pas pour moi, que ça me plaisait pas, ça me rendait vraiment malheureux, mais réellement, quoi. Et que je voulais vraiment faire autre chose que des études et trouver d'autres voies en fait pour faire quelque chose de ma vie, mais pas quelque chose comme ça.
Et aujourd'hui, du coup, ton projet de vie, entre guillemets, quoi, sans être trop...
Oui, oui.
Tu te projettes
Ouais, mon projet perso, ce que je me dis très souvent depuis que je suis dans la vie active, entre guillemets, c'est que je veux essayer de diversifier au maximum mes activités, mais en restant dans des trucs que j'aime. Enfin, je fais de la musique, je me suis monté un studio chez moi, ça fait pas mal de temps déjà que je bidouille de la musique. En fait, la musique, c'est toute ma vie. Il faut savoir que la musique, elle m'a suivi vraiment toute ma vie, de mes zéros à mes 21 ans, elle a toujours été présente, et que là, depuis, on va dire, un an et demi, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi, quoi. Parce qu'au début, je voulais pas me lancer, j'osais pas vraiment me lancer en me disant, mais ça marchera pas, et puis maintenant, je me dis, tant pis, de toute façon, je tente, parce que si je réussis là-dedans, ce sera uniquement de l'acharnement et de la persévérance, quoi.
Tu composes, tu joues...
Je suis rappeur. J'écris mes textes, je fais beaucoup de top line, beaucoup de mélodies vocales, et puis derrière, voilà... J'essaie de poser ça sur des instrus. Mon but ultime, ce serait de pouvoir écrire, enregistrer et moi-même traiter la voix et essayer de mixer. J'aimerais bien être dans le processus de création de A à Z. Après, c'est pas facile parce que voilà, le mixage, le mastering, tous ces trucs-là, c'est des domaines vraiment très spécialisés, peu scientifiques. Voilà, ça devient compliqué, mais mon but ultime, ce serait vraiment de pouvoir.
Et de l'extérieur, quand j'imagine qu'il faut utiliser des outils un peu comme assez élaborés. Notamment numérique, c'est accessible ces outils ?
Pas tous les outils. C'est-à-dire les certains outils qui vont être pas du tout adaptés. Par exemple, moi, je pense notamment à tout ce qui est visuel, enfin tous les logiciels ou les plugins de logiciels qui sont visuels, c'est mort. Je pourrais pas une courbe, voilà, moi je vois pas la courbe, c'est pas facile à. Voilà. Après, les éditeurs font quand même des efforts pour essayer d'adapter les choses. Moi, du coup, je bosse sur Mac, mais c'est vrai qu'Apple, ils sont quand même vraiment, vraiment balèzes en termes d'accessibilité pour les personnes, pour tous les handicaps, mais notamment pour les non-voyants.
Ouais, j'imagine que tu as déjà peut-être produit des petites maquettes ou diffusé.
Non, j'ai jamais pour l'instant diffusé. Parce que c'est vraiment extrêmement récent, hein. Ça fait vraiment depuis janvier-février que je peux le faire, en fait, que j'ai le matos et les connaissances nécessaires. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été diffusé. Je viens juste de lancer tout juste ma page Instagram. Voilà, j'ai même pas encore de chaîne YouTube pour poster de clips ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, j'ai écrit des textes, j'ai enregistré, voilà, j'ai fait des espèces d'ébauches pour l'instant. Hein.
Zito, freestyle à l'arrache sur un putain de téléphone. Carré. Y'a tout le monde qui m'a dit. Le rap c'est pas facile, chemin semé d'embûches, mais t'inquiète, je suis combatif, tranquille frérot, ça va le faire depuis longtemps, on fait la diff. 4h du mat, je suis solo, là je me roule un spliff. Même sans les yeux, je vois tous leurs vices. Tu me verras pas dans la boîte, tu me verras pas dans le carré vip. Tu devrais faire preuve d'un peu de modestie. Tu joues les pablitos, mais tes narines elles font du ski. Je viens pas de la cité. On t'a remonté. Je suis pas un gros bonnet. Je m'en bats les couilles de représenter. J'suis solo, solo, solo. J'suis solo dans la part. J'suis solo, solo, solo.
Tu disais tout à l'heure que t'es allé t'installer à Toulouse, bon, pour aller à Sciences Po, mais aussi pour rejoindre ta
copine. En fait, c'était voilà, principalement pour rejoindre ma copine. Vraiment très, très, très forte à 98,9% pour rejoindre ma copine. Ouais, ouais.
Elle est déficiente visuelle ou
pas du tout. Pas du tout. Ouais. Non, on s'est rencontrés on s'est rencontrés un mois avant que je perde la vue.
Ah ouais.
Un mois avant. C'est-à-dire que on s'est rencontrés sur Internet, on parlait un peu sur Internet, et puis on a bien accroché, on a décidé de se voir, et en fait on a fini par se mettre ensemble, quoi.
Ah oui, elle était pas dans ton collège ou ton
lycée. Ah non, pas du tout. Moi j'étais à Valence, elle était dans la campagne de Toulouse, voilà, on s'est juste rencontrés sur Internet. Mais vraiment un mois, vraiment tout pile avant que je perde la vue, et en fait je suis parti un mois après, je suis allé chez elle, je l'ai rencontrée. Et en revenant en fait de chez elle, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment complètement perdu la vue, quoi.
D'accord. Donc voilà, et elle le vit comment, elle t'a cécité à ce
moment-là ? Je pense qu'elle le vit. Elle le vit plutôt bien. En tout cas, je lui pose souvent, parce que c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, je lui pose souvent la question, mais est-ce que c'est dur pour toi ? Est-ce que tu penses que t'as vraiment misé sur le mauvais cheval, quoi ? Parce que c'est vrai que des fois, j'ai quand même un peu l'impression de l'embêter plus qu'autre chose, voilà, mais elle me dit que non, en fait, et qu'elle, ça lui passe complètement au-dessus, qu'elle considère ça quasiment comme un trait de personnalité. C'est vrai que c'est devenu notre quotidien, quoi, complètement l'habitude.
C'est quoi ton ressenti, vraiment, au niveau émotionnel, le fait de sortir avec quelqu'un d'aveugle ?
J'y fais pas vraiment attention, en fait. C'est pas quelque chose... C'est pas un trait essentiel pour moi. C'est comme le fait de porter des lunettes, en fait.
Est-ce que ça te dérange ? Sur certaines tâches, certains moments du quotidien.
Des fois, je me dis, ce serait bien s'il pouvait faire ça, s'il pouvait m'aider à faire ça, mais bon, c'est pas quelque chose qui est handicapant.
Tu penses que le regard des autres, il est différent par rapport à même toi, alors simplement en tant que copine de mec aveugle?
Ça m'est un peu égal.
Ouais, il y a des choses que tu voudrais faire que tu peux pas forcément faire.
Il n'y a pas de choses en particulier que je ne peux pas faire, mais c'est sûr que ça prend plus de temps. Après, c'est minime en fait. C'est comme voir, j'en sais rien, ton copain il est un peu feignant, il me fait moins de choses. Voilà, c'est pas aussi dramatique qu'on pourrait le penser.
Est-ce que les gens, ils te posent des questions parfois?
Ah oui, très souvent.
Genre quoi?
Une des premières questions qu'on me pose quand je dis que mon copain est aveugle, c'est comment on fait pour faire l'amour. Donc bon, je sais pas si je peux trop le sortir comme ça.
Excellent.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'imaginoire, à l'écoute des familles, en compagnie de Enzo et de Mylene. Retour à l'entretien.
En fait, je pense que les déplacements quand t'es non-voyant de naissance, c'est pas pareil que quand t'es non-voyant et que t'es devenu non-voyant avec le temps. Parce que non-voyant de naissance, tu t'es toujours déplacé comme ça. Alors que moi, il faut que je me détache. Là, il y a tout un processus. Il faut que je me détache complètement de l'orient de repère en fait, qui te permettent de te déplacer. Donc c'est très très compliqué de se déplacer quand on est non-voyant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très galère. J'en chie énormément. Mais je fais un peu d'écolocalisation. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé mon ouïe et mon audition, voilà, et à essayer de détailler le plus possible ce que j'entends. Et du coup, ça m'a permis, en fait, dès le début, quand j'ai perdu la vue, au tout début, j'étais vraiment très peu habitué à la canne, et je me suis rendu compte très vite que, ne serait-ce que l'air qui m'entoure, les espaces, la façon dont sont faits les environnements, en fait, dans la rue, etc., de manière sonore, te donne des indications. Et du coup, après, c'est là que c'est à ce moment-là que mon père, je crois, à ce moment-là, me parle d'une émission. Il me dit « Ah, j'ai vu une émission avec un gars qui fait de l'écho comme un dauphin, quoi, plus ou moins. » Et je me suis dit « Mais c'est trop marrant, mais si ça marche vraiment, bah c'est incroyable. » Et j'ai testé, et en fait, effectivement, ça marche. Tu peux y mettre des sons avec ta bouche, des petits sons très, très rapides et très qui se projettent assez loin. Et en fait, avec la façon dont l'onde sonore va taper sur le mur ou sur n'importe quelle surface et revenir, ça va donner des infos sur... la position, la taille de la pièce, par exemple, ce qu'il peut y avoir au milieu de la pièce, s'il y a des objets ou quoi, ça peut te donner des informations comme ça. Et après, c'est quelque chose que tu travailles, voilà, pour devenir plus performant. Moi, pour l'instant, c'est pas super développé, hein. C'est beaucoup d'espace, de pièces, de trucs comme ça. Mais je sais qu'il y a des gars qui arrivent à déterminer si le sol c'est de l'herbe, s'il y a une chaise au milieu, des petits objets, etc. Ça peut devenir très 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 puissant comme outil. Ouais. Souvent les gens ils me disent mais c'est magique, en fait t'entends des choses que nous on n'entend pas. En fait c'est pas vrai, j'entends pas des choses que les gens n'entendent pas, c'est juste que moi je prête attention à des choses que les gens, auxquelles les gens font pas du tout gaffe. Je pense que tout le monde est capable de faire exactement ce que je ou ce que d'autres personnes déficientes visuelles font au niveau de l'ouïe. Mais c'est une histoire de concentration, parce que en fait, moi je me rends compte en ayant perdu la vue que quand t'es voyant, t'es complètement tributaire de tes yeux, en fait. T'es complètement dépendant de tes yeux, et c'en est mauvais. Et on est dans une société qui va de plus en plus vers ça, qui va de plus en plus vers le tout visuel, les informations visuelles tout le temps. Et en fait, quand tu te détaches de ça, tu te dis « Ah ouais, mais en fait, il y a beaucoup d'autres dimensions que j'exploite pas dans ma vie de tous les jours. » Toi, parce que tu me vois au quotidien, est-ce que tu penses que je suis vraiment dépendant de toi ou j'arrive à peu près à me débrouiller seul? Je pourrais me débrouiller à peu près correctement seul, quoi.
En fait, tu pourrais habiter tout seul, et tu l'as déjà fait. Pour moi, de manière lucide, tu peux pas être complètement indépendant. Il y a des choses que, malheureusement... il n'y a pas l'accessibilité pour, par exemple, faire tes courses ou d'autres choses, ou voilà, te balader dans des endroits que tu ne connais pas au préalable. Non, ça, c'est sûr que tu pourras pas être indépendant sur ces choses-là.
Est-ce qu'il y a des trucs qui te manquent? C'est-à-dire que tu aimerais faire, mais qu'on ne peut pas faire, ou des trucs comme ça?
Non. On peut tout faire. Mais si j'ai envie de faire quelque chose avec toi et que tu ne peux pas forcément le voir ou qu'il faut absolument la vision, bah c'est pas grave, on peut quand même le partager, même si ce n'est pas la même chose, je peux quand même te le décrire. C'est sûr que ce n'est pas la même chose, mais il n'y a... y a aucune privation.
Le corps est bien foutu, j'ai envie de dire, parce que tu perds un sens, les autres se développent un peu plus. Après, perdre la vue, c'est changer complètement de monde, en fait. C'est changer littéralement de paradigme. Enfin, moi, après, c'est mon avis, hein. En gros, je considère vraiment qu'il y a une rupture dans ma vie, au moment où je perds la vue. C'est-à-dire qu'il y a le mois d'avant et le mois d'après. Et ils n'ont plus rien à voir. J'ai vraiment complètement changé à partir de 2017. J'ai vraiment complètement parti sur d'autres objectifs de vie. Voilà, j'ai complètement changé de monde. Je suis plus 100% dans la réalité de tout le monde. Il y a cet aspect-là, un peu, de se sentir un peu à l'écart, mais parce qu'on ne perçoit pas les mêmes choses, quoi.
Ouais, je partage totalement ton
sentiment. En fait, tu t'appréhendes pas le monde pareil.
Mais tu te sens beaucoup plus riche aujourd'hui.
Comment dire? Je me sens blessé, mais je me sens renforcé en même temps. Là, je me sens blessé non, pour, par énormément de phénomènes, parce que c'est un truc qui te fragilise. Moi, j'en ai vécu du mal au début, hein, ça a été vraiment des... J'ai encore même des fois des périodes... c'est pas facile, psychologiquement, c'est très très dur. Mais en même temps, c'est un vécu, ça forge, quoi. Comme tout ce qui fait mal, en fait, ça forge. C'est un vécu que, voilà, mais comme tout vécu, après, si tu le sublimes pas, bah, tu peux rien en faire, mais si t'arrives à prendre ce vécu-là, ces cicatrices-là que t'as, si t'arrives à en faire quelque chose de bien, de beau, si t'arrives à le transformer en quelque chose d'utile pour toi et pour les autres, c'est cool. C'est un peu l'objectif, en fait, pour moi.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. On retrouve Enzo et Mylène pour la suite de l'émission.
Est-ce que ça te dérange, par exemple, le fait que je fais pas d'études, genre ?
Bah, t'as la chance d'avoir les allocations, donc bon, voilà quoi.
C'est-à-dire que bah, le rap, c'est typiquement, c'est ça, c'est une musique dans laquelle tu vas parler un peu de toi, de ce que tu connais, ou de ce que des gens, tu vas parler de choses, mais de choses très, c'est très, le rap, c'est très attaché au réel, quoi, et c'est très attaché à ce que tu ressens, aux ressentis, aux émotions, tout comme ça. Donc du coup, c'est vrai que...
Et dans les textes que tu as commencé à écrire ou déjà écrit, tu parles de ta différence.
Ouais, j'aborde un petit peu le sujet. Et en fait, j'essaie de pas tout faire tourner autour de ça, parce que sinon, ça fait vraiment... Ça, en fait, c'est dans le sens où, pour moi, c'est pas du tout de la victimisation ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les gens, s'ils sont pas du tout habitués, s'ils te connaissent pas, ils vont écouter ça. Si tu fais 3 minutes 30 sur le fait que tu vois pas, ils vont peut-être prendre ça pour un peu de la pleurniche ou de la victimisation, ouais. Même si c'en est pas, quoi. Ouais. Et puis surtout, moi, je veux montrer aux gens que, ouais, j'ai perdu la vue, ouais, je suis aveugle maintenant, mais en fait, je suis un mec normal, je suis juste un mec normal sans les yeux. Souvent, ça, c'est une phrase que je dis très souvent aux gens. Je dis aux gens, je suis pas une personne non-voyante, je suis juste un mec normal qui a perdu ses yeux, c'est tout.
T'es plutôt genre sandwich salade ou boulette de viande ?
Pour être complètement honnête, aucun des deux.
Ah ouais, et moi, tu penses que je suis plutôt quoi ?
Plutôt salade.
Plutôt salade ? Je suis un mec un peu végétarien. Et si on fait la cuisine ensemble, est-ce que, genre, ça va, je me débrouille bien à faire la cuisine ou je suis plus la merde, genre ?
En fait, tu te débrouilles très très bien quand il n'y a pas une poêle qui est impliquée.
L'implication de la poêle. Tu penses que quand on est aveugle en 2021, on peut avoir un avenir de type qualitatif ?
Ben, c'est quand même... on va pas se mentir, c'est quand même pas la joie, quoi. Après, oui, je pense qu'on peut s'épanouir. Il y a plein d'aveugles qui sont connus, non, maintenant ?
Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses que j'ai d'autres problèmes que le fait d'être aveugle, genre qu'il faudrait que je règle aussi ?
Oui, de nombreux psychiatriques.
Ah, ok. Tu m'aimes bien, quand même ?
Ça va.
Donc plus que tout à l'heure, quoi.
Cool. Ça change, c'est fluctuant.
D'accord. C'est une courbe comme ça.
J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que c'est toi qui choisis ton chemin, c'est toi qui choisis qui tu veux être. Quoi. Et si t'as envie d'être une personne normale, bah, tu peux être une personne normale.
Comment tu réagis au fait que, tu vois, je veuille me lancer dans des trucs qui sont pas des chemins classiques, pas d'études, pas de diplôme, des travails, enfin, des trucs un peu plus incertains ?
Bah, la voie des études, c'est juste pas pour tout le monde. Et si t'es sûr que c'est pas ce qui te plaît et c'est pas là où tu t'épanouiras, bah tu fais autre chose, c'est tout.
Ouais, logique.
Notre monde change pas mal, les mentalités changent aussi. On est en... Voilà, une personne handicapée est plus vraiment vue comme elle pouvait l'être, je sais pas, il y a quelques dizaines d'années ou quelques... Voilà. Mais c'est pas encore parfait. C'est pas encore parfait. Des gens qui font des efforts, des villes qui font des efforts, des gens qui font des efforts, il y a énormément de... Voilà, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé. Maintenant, dans le quotidien, autant je peux croiser des personnes qui sont 100% positives avec moi, qui sont des personnes qui essaient de m'aider, ou même des gens, même pas forcément m'aider, mais juste des gens qui se foutent en fait du fait que je sois, qui prennent même pas ça en compte, parce qu'en fait c'est un truc, si ça peut être le plus discret possible, chez moi ça me va. J'ai pas envie d'avoir une pancarte sur la tête avec marqué « Ah, je ne vois pas, non, je m'en fous, c'est pas un truc, ça m'intéresse. Bah, » Je sais, personnellement, je le vois pas, tu vois, je le vis tous les jours, donc j'ai pas besoin de me le rappeler, ni dans mes relations sociales, ni quand je sors dehors ou quoi. Mais après, il y a des gens, c'est vrai, qui sont quand même encore très cons, hein. Il y a des gens qui ont des réactions bizarres, ou des gens aussi qui te fuient. Il y a des gens qui vraiment, tu leur dis handicap, peu importe le handicap, les mecs se barrent en courant parce qu'ils comprennent pas, en fait. Ils préfèrent fuir. Des fois, j'essaie juste de parler à des gens, même voilà, des gens que je connais pas, pour se faire des liens sociaux. C'est un truc qui est, c'est une galère improbable. Parce que, par exemple, scolairement, une partie de la raison pour laquelle j'ai arrêté les études aussi, c'est que je suis incapable de me faire des potes depuis que, enfin, de me faire des potes. C'est très compliqué de se faire des potes quand tu vois pas. Parce que déjà, tu peux pas aller vers les gens. Ouais. Donc c'est les gens qu'il faut qu'ils viennent vers toi. Donc déjà, il faut, ça fait déjà un tri, parce que t'as ceux qui vont pas venir vers toi, puis t'as ceux qui vont prendre le temps. Il y en a très peu. Et puis, il y a certaines personnes qui vont aussi se dire, c'est trop compliqué, quoi. Je peux pas devenir l'ami de cette personne. Je peux pas traîner avec cette personne au quotidien, parce qu'en fait, c'est trop complexe, quoi. Alors qu'en fait, ça l'est pas. Mais c'est juste une méconnaissance qui fait que les gens se disent c'est trop compliqué.
Toi, comment tu te sens, par exemple, quand on est dehors, quand on doit se balader dehors et que tu dois me guider? C'est quoi ton ressenti global, genre, avec les gens, avec les obstacles, les voitures, tout?
Mais en fait, j'y fais pas attention. Le fait que tu sois aveugle, c'est vraiment secondaire. C'est pas je suis en train de me balader avec un aveugle, c'est je suis avec mon copain, c'est tout. C'est juste une caractéristique qui fait partie de toi, mais je vais pas y faire attention tous les jours, quoi. C'est sûr que c'est important, et peut-être que je suis pas en train de le minimiser, mais je sais pas, pour moi c'est pas quelque chose qui est dans mes pensées tout le temps. J'y pense pas tout le temps. Quand on est dehors, ben on se balade, c'est tout.
Est-ce que tu penses que des fois les gens ils ont des réactions un peu étranges par rapport à moi, ou par rapport à nous deux, ou à toi, juste simplement?
Je pense que c'est plus maladroit qu'étrange, mais par exemple le fait de, quand on veut s'adresser à toi, quand on veut dire quelque chose qui te concerne, mais qu'en fait on s'adresse à moi, pour que je puisse te le dire comme si il pouvait pas s'adresser directement à toi, en fait, je pense que c'est plutôt de la maladresse et de l'ignorance, mais c'est quand même assez maladroit.
J'ai toujours envie de donner un peu des conseils aux gens. Ouais. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Ma mère a toujours bossé dans le social, je pense que ça vient de là. mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours envie de donner des conseils aux gens, mais en même temps, je me dis, qui est-ce que je suis pour donner des conseils aux gens? Donc en fait, je vais peut-être pas donner des conseils aux gens, mais en tout cas, voilà. Si jamais y a quelque embûche que ce soit dans votre vie, si jamais quoi que ce soit se passe, dites-vous qu'en fait, vous pouvez compter sur vous. C'est tout. Vous pouvez compter que sur vous. Et que, sur le coup, peut-être que vous allez être dépassé par les événements, mais un humain, c'est vachement, vachement, vachement plus puissant que ce qu'on pense. Et on peut faire un tas d'autres trucs qu'on n'imaginerait pas. Et il y a plein de choses que je pensais perdu définitivement dans ma vie, que j'ai retrouvé au fur et à mesure. Donc en fait, il ne faut jamais rien lâcher, il faut juste persévérer jusqu'à ce qu'on s'en sorte, quoi. C'est tout. Y a pas de... Ça ne sert à rien de se morfondre en fait, sur sa situation, dans un coin, comme ça. Il faut vraiment se battre tout le temps. C'est un combat au quotidien, mais ça forge, donc c'est cool.
Est-ce que tu m'aimes bien?
Bah, pas de ouf, hein.
Ah, c'est Zito, tu connais. Freestyle à l'arrache sur mon téléphone, qualité dégueulasse. T'inquiète, c'est pas long. Y'a tout le monde qui m'a dit:
le rap c'est pas facile, chemin semé d'embûches, mais t'inquiète, je suis combatif, ça va frérot, faut pas t'en faire. Longtemps qu'on fait la diff, 4h du mat et je suis dans le bail solo, je réfléchis sur mon spliff. J'avance dans le noir, mais je vois tout leur se. Vite, tu me verras pas dans la boîte. Non.
Et c'est ainsi que se termine cette 28e émission de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Merci à Maïline, merci à Enzo. Si vous voulez suivre Enzo sur Instagram, cherchez et trouvez-le sur le.zito, Z-I-T-O. L'Imaginoire est une émission dédiée à la rencontre, la récolte de paroles et la co-construction des émissions avec des familles dont l'enfant est déficient visuel, afin de sensibiliser ce monde incrédule que les déficients visuels sont bel et bien là. Votre famille est dans cette situation, vous voulez apporter votre témoignage? Envoyez-nous un mail à l'imaginoire@lilo.org. L'Imaginoire, L-I-M-A-G-I-N-O-I-R. Vous pouvez également nous rendre visite sur notre page Facebook, facebook.com/l'imaginoire. Si vous voulez réécouter cette émission, découvrir les émissions précédentes, rendez-vous sur le mixcloud.com/l'imaginoire. L'Imaginoire est un projet soutenu par la CAF Drôme et la Fondation BP Aura. À bientôt pour une prochaine émission.